Oui, exactement. Eh bien, je vous souhaite le bon début d'après-midi. Et donc ici tous un intitulé, tous à poil, et donc je vais vous poser plein de questions aussi et je vais vous expliquer pourquoi tous à poil, puisqu'il s'agit effectivement de retracer un petit peu les techniques et l'histoire du vêtement et de ce que l'on connaît à l'époque de la préhistoire. Alors pourquoi tous à poil à votre avis? C'est le début. Si vous avez entendu les autres exposés, l'évolution de l'homme, pourquoi tous à poil? Oui, même avant, en fait, tous à poil. Voilà, ben, en fait, c'est un terme un peu ambivalent, si vous voulez, qui a double sens, puisque tous à poil, on peut imaginer que nous étions tous, à un moment donné, au tout début de l'évolution, on avait une certaine pilosité, en tout cas un peu plus abondante qu'actuellement, je ne dis pas des singes velus, voilà. Donc ça, vous avez écouté, je vous invite à écouter les autres exposés à ce niveau-là. Donc en fait, on était tous à poil, puisqu'effectivement, nous n'avions pas de vêtements et nous avions notre seule pilosité pour nous protéger des intempéries, du rayonnement solaire et autres. Donc en fait, nous étions effectivement tous égaux, nos cousins et nous-mêmes. Alors évidemment, tous à poil aussi, c'est parce qu'effectivement, donc à l'époque, si même on avait donc un système pileux plus ou moins développé, c'est qu'effectivement, nous n'avions pas, et il n'y en a aucune preuve, de vêtements. Le vêtement va venir par la suite. Alors, c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant, c'est quels sont les arguments et qu'est-ce que nous avons comme preuve pour essayer d'avancer des hypothèses sur l'origine du vêtement, quel type de vêtement, quel type de matériaux utiliser. Vous imaginez aussi qu'à partir du moment où quand on était tous à poil, c'est-à-dire sans vêtements éventuellement, nous étions, comme je l'ai dit, tous égaux. Il n'y avait pas de signe distinctif, à part peut-être en termes de société, puisque on pouvait quand même reconnaître un bon chasseur, une femme, un homme, donc il y avait quand même une certaine différence, mais peut-être minimisée. Vous imaginez tout de suite qu'à partir du moment où on dit vêtements, c'est-à-dire que l'on porte quelque chose qui a peut-être une utilité effectivement, et vous voyez tous ici, on peut se distinguer. On peut se distinguer pour diverses raisons, et quand on fait un bond dans l'histoire, vous imaginez le vêtement du cardinal, vous imaginez le vêtement de Louis XIV, et vous imaginez le vêtement du paysan sous Louis XIV. Et donc effectivement, le vêtement est source de différence et source de différenciation sociale. Alors ça, évidemment, on n'en a pas beaucoup d'arguments pour l'instant, mais on peut dire qu'à partir du moment où il y a du vêtement, on introduit déjà une différence. Donc on va laisser de côté ce débat, je dirais, social, puisqu'il est peut-être plus récent, où on a des preuves, et on va revenir donc à la préhistoire. Et donc à partir du moment où n'étions plus tous à poil, et donc que l'on a des vêtements, eh bien, à quelle période imaginez-vous que l'on puisse avoir porté des vêtements? Donc sans y mettre la connotation, je dirais, sociale, à votre avis, pourquoi le besoin de porter un vêtement a-t-il une utilité? Pour? Ben voilà, exactement, ça peut être un des arguments tout à fait, je dirais, matérialiste et au sens premier, c'est que se couvrir, ça implique de se protéger notamment contre le froid, les intempéries. Évidemment, toujours, on en a, évidemment, les vêtements, on en a très peu, vous le verrez, très peu de témoignages. À partir de quand est-ce qu'on peut imaginer qu'on a besoin de se protéger contre le froid? Est-ce que, enfin, si vous avez déjà suivi les autres exposés sur l'évolution de l'homme, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous parle? Voilà, effectivement, période glaciaire. Donc, effectivement, à partir du moment, on peut imaginer que l'homme n'avait pas spécialement... L'homme, les hominidés, n'avaient pas spécialement de se vêtir tant qu'ils étaient sur le continent africain. Bon, eh bien, saison des pluies et saison chaude, mais il faisait toujours chaud. Et que par contre, le besoin s'est fait sentir, un besoin très matériel s'est fait sentir à partir du moment où il y a eu les grandes migrations vers les continents asiatiques et européens, où effectivement il y avait les périodes glaciaires. Et donc, en termes de grand froid et puis d'hiver, l'homme a peut-être senti le besoin de se protégé. À partir de ce moment-là aussi, je dirais, par voie de conséquence, il avait sans doute perdu un peu de sa pilosité, donc il a moins de protection thermique, et donc il avait un besoin de se vêtir. Alors, effectivement, on peut dire peut-être à l'époque déjà d'Homo erectus, vers un million et demi d'années, peut-être moins, on peut imaginer les hommes porter certains types de vêtements. Maintenant, étape suivante, si on parle de vêtements, à cette époque-là, ce sont des chasseurs-cueilleurs, nomades. Qu'est-ce qu'ils auraient comme type de vêtements? Voilà, les peaux de bêtes, enfin les peaux des animaux qu'ils chassaient. Hein, donc effectivement, selon les régions, évidemment, le type de matériau va changer. Mais si on prend nos régions ici, réduisons un peu le champ. Si l'on prend nos régions ici, quels sont les animaux éventuellement qu'ils pouvaient rencontrer et chasser, en gros, à l'époque, il y a 20 000 ans d'ici, en période glaciaire, à l'époque de Cro-Magnon? Cervidés, oui, la famille des cervidés, mais pas le grand cerf comme on a maintenant. Ben oui, voilà, le renne. Et donc, effectivement, le renne, animal chassé abondamment dans certaines régions, il y avait du bison, il y avait de l'auroch, donc il y avait d'autres animaux potentiels, mais il y avait effectivement, surtout ici dans nos régions en Île-de-France, il y avait du renne, et ils étaient chasseurs de renne dans certains sites. Et donc voilà un morceau de peau de renne, voilà d'autres peaux de renne plus grandes, donc vous voyez un animal qui a une abondante fourrure, et donc vous imaginez très bien que ça fait une excellente protection contre le froid, puisque si vous imaginez maintenant les Inuits et leur peau de phoque et leurs vêtements, enfin quand ils en avaient encore, leurs vêtements en peau d'animaux, eh bien c'est une excellente protection contre le froid. Et vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà vu, d'où vous connaissez, donc les vêtements des Inuits, pour avoir une bonne protection contre le froid, ils font des vêtements, mais ils le portent comment? Le poil dedans, voilà. Donc le poil dedans, alors en fait, ils font en général double couche. Mais le poil dedans, ça a une plus grande protection thermique. Et puis on peut imaginer graisser la partie lisse et donc avoir une protection et contre l'humidité, l'eau, parce qu'évidemment, ils vont pêcher et autres. Et en plus, donc contre le froid, grâce à la peau retournée. Et on... De là, évidemment, on a fait des rapprochements avec nos populations de chasseurs nomades locales. Étant donné qu'ils ont du renne, ils ont tout le potentiel pour se faire des vêtements et une bonne protection contre le froid, et même des froids donc en période glaciaire. Alors après, on a le matériau. Est-ce qu'ils se mettent le gros cliché, les peaux de bête, hein, l'homme, les peaux de bête maintenant comme ça sur le corps? Non, oui. Il se le mettait comme ça, il découpe l'animal et hop, j'enfile ma peau. Non, ça viendra après. Ça viendra après. Mais donc, on peut toujours imaginer par des biais ethnographiques. Forcément, ils ne connaissaient donc pas le tannage, on en parlera après, donc qui est une transformation chimique du matériau qui le rend imputrescible. Et donc, il y a un traitement assez sommaire, mais qui est assez efficace, et que donc les Inuits, les populations lapones utilisent encore, parce que les populations lapones sont éleveurs de rennes, mais ils ont néanmoins du renne. Et c'est le mâchouillage de la peau, le mâcher pendant des heures, et de préférence tremper dans l'urine, parce que l'acide urique va induire un processus chimique analogue après aux agents tanniques de plus tard, végétaux. Mais quand on n'a pas de végétal à sa disposition et qu'on est en pleine banquise et autres, ben on a quoi? On a que l'urine des animaux ou humaines pour faire office d'agent tannant. Et donc c'est ce qu'on suppose qu'ils ont fait. Et là, on en a, je dirais, peut-être des arguments indirect, puisqu'on n'a pas les peaux, vous imaginez que ça ne se conserve pas. Et en fait, on a les témoignages indirects, c'est-à-dire qu'on a des squelettes humains, certains squelettes humains, un peu âgés, adultes, âgés, qui ont des dents abrasées, mais jusqu'à la racine, jusqu'à la gencive. Et ce n'est pas l'alimentation de l'époque, puisqu'il y en a d'autres qui ne l'ont pas, qui induit cette usure et cette abrasion. Par contre, par comparaison, toujours avec les populations actuelles, subactuelles, eh bien, les populations lapones ou les populations inuites, elles ont des dents particulièrement abrasées, des personnes qui mâchent les peaux avec les acides pendant des heures. Donc ça a un truc... Oui, mais alors en plus, pas n'importe quel travailleur, hein, parce que c'est toujours l'apanage des femmes, si je puis dire, de mâcher les peaux. Donc voilà, c'est pas le travail partagé, c'est le travail sexé, là. Et donc, voilà, donc par... Tout ça par des arguments, et donc parce qu'on a les dents aussi abrasées, on a imaginé que cette abrasion importante était due au mâchouillage des peaux, et qu'ils connaissaient donc, je dirais, un traitement sommaire des peaux avec l'urine. Il y a un autre produit qu'ils pouvaient trouver, et en particulier ici dans nos régions aussi, qui aide à rendre la peau imputrescible et à se protéger. Alors là, ça va être plus difficile et plus délicat, à mon avis, à trouver, mais la réponse en fait, elle se trouve sur la table de l'autre côté. Parce que ça a à voir avec le fer. En fait, c'est un... Je vais vous donner la réponse. Ça s'appelle l'hématite ou l'ocre. Et donc, l'hématite dont il y a des petits fragments de l'autre côté, eh bien, c'est un agent à la fois colorant. C'est couleur rouge, brun. Mais on sait très bien que sur les peaux, le fait d'enduire d'hématite, de répartir de la poudre et de l'imbiber de poudre, eh bien, en fait, ça protège contre le pourrissement et la putréfaction. Donc voilà un autre moyen aussi, sans connaître le tannage végétal, de pouvoir traiter les peaux. Alors étape suivante, bon, on a des peaux, on les a traitées, c'est bien, mais après il faut s'habiller. Et à votre avis, dans ce qu'ils ont comme outillage ou autre, est-ce que donc, j'en reviens toujours, est-ce que bon, il a traité sa peau, cette fois-ci on a fait un grand pas, est-ce qu'il va de nouveau se l'enfiler, trois bouts de corde végétale, et puis rester comme ça, comme on les voit dans certains films. Couture, voilà, on va y arriver. Alors, avant la couture, il y a l'outillage en silex, bien entendu, et vous l'avez vu, vous le verrez, ou je vous invite à revenir, quand il y a des tailleurs de silex ici, donc ils vous expliquent que le fait de détacher un éclat de silex, le silex a une propriété, c'est que le tranchant est excessivement coupant, ça peut être pire qu'une lame de cutter, donc vous voyez l'efficacité. Et donc, avec un tranchant plus ou moins rectiligne, on a un couteau, parfait, pas besoin de le retoucher, l'aménager. Et donc, on peut, ben, forcément, découper... Mais celui-là n'est pas très régulier. Mais donc, vous voyez, on peut découper les peaux. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir une peau de bête qui pendouille comme on les montre dans certains films américains. Donc, on peut effectivement se faire des pièces vestimentaires. Et ça a une autre utilité, enfin, un autre type d'outil. Enfin, plusieurs d'ailleurs ont une autre utilité. C'est que là, on vous parle de vêtements d'hiver pour se protéger contre le froid, mais vous en voyez d'autres là. Qui date aussi de l'époque, pour certains, enfin libre interprétation, mais qui date de l'époque des hommes de Cro-Magnon et puis plus tardif. Et donc vous voyez que ces vêtements sont assez quand même sophistiqués. Et donc non seulement on a des couteaux pour faire des pièces vestimentaires, mais on a également donc quand on retouche l'extrémité, on a des grattoirs. Et le grattoir, on le sait très bien par les études des traces, c'est un outil qui sert... comme son nom l'indique, gratter. Et à l'époque de Cro-Magnon, il servait particulièrement à gratter les peaux. Et donc, on peut patiemment gratter les peaux et enlever le poil. Et donc, à ce moment-là, j'ai aussi une protection ou d'un vêtement, ben, version, je dirais, été. Et donc, on n'est pas obligatoirement obligé de porter des vêtements avec des poils. On a des vêtements traités et travaillés, enlevés, dont on a enlevé le poil, et on peut faire des vêtements plus légers. Donc, ça, c'est pour la découpe et c'est pour le type de vêtements. Maintenant, vous aviez parlé couture. Donc, alors jusqu'à présent, je n'avais pas parlé beaucoup de dates parce que tout ça, c'est par des déductions indirectes. Bon, on est plus ou moins quand même à l'époque de Cro-Magnon, peut-être avant, et déjà à l'Homo erectus, à partir du moment où il est donc dans les périodes glaciaires. À partir de l'homme de Cro-Magnon, vers 20 000 ans, on va commencer à accumuler d'autres preuves indirectes du vêtement, dont effectivement le témoignage de la couture. Donc, On a découpé nos peaux, on les a traitées. Maintenant, on a fait des pièces simples de vêtements. Il faut pouvoir donc les assembler. Donc, vous parlez couture. Avez-vous une idée, voilà, de quels instruments utiliser pour faire de la couture? Exact. Une aiguille? Voilà, une aiguille en os de renne, effectivement. Et donc ça, on en a retrouvé en quantité dans nos régions ici. On a même retrouvé les étapes de leur fabrication, donc on connaît la façon dont ils les fabriquaient. Et les plus anciennes aiguilles ont plus de 19 000 ans, plus de 20 000 ans, je dirais maintenant. Voilà. On a retrouvé sur les sites si vous avez écouté Jean-Luc hier, ou enfin je crois qu'il en refait une sur les premiers Parisiens, il en parle, ce sont les populations dites magdaléniennes, un nom bien savant, mais donc ici à Pincevent notamment, on en a retrouvé et ici en Belgique, enfin partout. Alors, aiguille, je vous la ferai passer éventuellement, vous viendrez voir après, ce sera peut-être plus simple, une aiguille à chat. Donc l'aiguille à chat, c'est l'aiguille qu'on utilise tous actuellement, donc avec le petit trou. Et donc ici, c'est une grosse aiguille, il y en a des extrêmement fines qui font 2, même pas 3 mm au niveau du chat de large, avec le trou, enfin le trou est dedans, même pas 1 mm. Et donc ce sont vraiment des fines aiguilles qui sont faites en os ou en bois de renne. Alors c'est plus facile parfois l'os. Pourquoi? Parce que voici ici, vous le verrez de plus près, une étape de fabrication de ces aiguilles. On prend une esquille d'os, une côte par exemple, c'est bien plat à peu près, voilà, droit. Avec un autre outil en silex, on doit faire une éclisse, je dirais, donc un petit bout de détacher une petite aiguille d'os. Et donc on va avec un outil qu'on appelle un burin, on va le rainurer. Donc on va faire en fait deux rainures. Puis on va le scier et on va le casser et on va le détacher. Donc on a déjà notre première étape de l'aiguille. Ensuite, avec un très très fin perçoir, alors je crois que je n'en ai, non, ici ce n'est qu'un burin, mais donc avec un très très fin, ah ben non, c'est un petit perçoir, avec un petit perçoir, emmanché ou pas à l'époque, donc il n'y a pas de souci, avec un perçoir mais encore plus fin que ça on en a, eh bien on va faire, donc on a l'éclisse, on va faire le trou. Donc on fait a priori d'abord le trou, puisque c'est lui qui va un peu déterminer la façon dont on va terminer l'aiguille. Et ensuite, sur des pierres abrasives, des pierres à polir, eh bien on va user l'éclisse jusqu'à former effectivement la polir autour du chat de l'aiguille et lui donner sa pointe. Et donc en fait on a plus qu'une aiguille à chat, c'est le modèle d'une aiguille à chat, mais effectivement on a plutôt un peu comme une haleine du cordonnier. Donc maintenant, voilà une aiguille, et ça, on en a des preuves, donc il y a une vingtaine de milliers d'années d'ici. Alors, toujours, on n'a pas retrouvé le vêtement, on a des aiguilles, on a des grattoirs, on a les burins, on a les traces dessus qui prouvent qu'ils ont travaillé la peau. Évidemment, mon aiguille en os, dans du renne, ça ne va pas aller tout seul comme ça, hein. Donc, de nouveau, appel à l'outillage en silex, un perçoir un peu plus gros. Et tout comme le silex ici, ben effectivement, donc en deux, trois coups de perforation et de rotation, je peux fabriquer mes trous. Et donc, je peux arriver à préparer donc tous les trous nécessaires à l'assemblage de mes peaux. Alors, on en est là, on a des pièces, on les a découpées, on les a préparées, elles sont trouées, on a les aiguilles, faut le fil. Continuons, faut le fil. Quel fil? Les nerfs? Oui, les tendons, exactement. Les tendons, éventuellement les boyaux, mais surtout les tendons. Et encore une fois, on revient au renne. Dans le renne, tout est bon. Et donc les tendons, les pattes de renne, notamment les pattes postérieures, ont des tendons qui ont parfois plus de 2 mètres de long. Donc on a du fil potentiel excellent. Et donc les tendons, ben, soit il est gros, soit on le détache en fines fibres. Et on a, vous vous approcherez tout à l'heure, vous verrez les coutures de ceci ou du vêtement qui est là, qui sont faits en tendons véritables. Et donc vous verrez la finesse de couture que l'on peut avoir et les ajustements impeccables que l'on peut faire avec ça. Ce que font toujours d'ailleurs les populations lapones et inuites. Évidemment, on a parlé du vêtement. Ici, donc, on a un copain qui s'est amusé à faire la version 20 000 ans avant, 21e siècle avant notre ère et pas après, de 210e siècle avant notre ère. S'est amusé à faire un sac de couchage, je dirais, et c'est pas totalement faux. Ils devaient avoir dans leur, ben, vous voyez, dans les tentes installées, ils avaient des endroits de confort et ça peut être très confortable. Lui, il s'est imaginé ça, donc il l'a assemblé au tendon également. Bon, les boutons sont modernes, mais tout est en bois, en os, donc tout est avec des perçoirs, du bois, on peut tout perforer. Et donc, il a fait l'expérience, il a dormi dedans et il m'a donc dit, par moins 15, bon, il a une protection thermique aussi, mais par moins 15, il a eu trop chaud. Donc, vous voyez la preuve de l'efficacité de ce genre de vêtements. Donc là, en gros, on est effectivement aux populations de chasseurs-cueilleurs. Et donc, on accumule des preuves entre 20 000 et 15 000 avant notre ère. Donc là, on a vraiment des preuves évidentes. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant, mais nous, on a... Tant qu'on n'a pas des sites où on a les aiguilles conservées, ce genre de choses, bon voilà, après c'est de l'hypothèse. Mais là, on a quelque chose de bien établi. Alors au niveau des... Là, on a tout le potentiel. Au niveau des modèles vestimentaires, parce qu'évidemment, vous imaginez que ça, c'est difficile d'avoir, de les conserver à travers les âges. C'est une des premières choses qui va disparaître. Donc on a, je dirais, à peu près rien du vêtement de l'homme préhistorique. Sauf que... On a quelques preuves, de nouveau, indirectes. Donc on sait qu'il les assemblait, on sait qu'il les cousait, qu'il pouvait les traiter. Et qu'est-ce qu'on peut, à votre avis, comment peut-on avoir des preuves indirectes du type de vêtements? Est-ce qu'il mettait des jupes, des shorts, enfin voilà, des blouses Ça ne vous dit rien? Vous ne voyez pas très bien? Parce qu'on ne les a pas dans les sites d'habitat, tout a disparu. Qu'est-ce qu'il nous resterait? Les peintures, mais alors donc la peinture pariétale, il y a très peu de représentations humaines. Il y a quelques petites figures féminines dont on pense qu'elles ont des détails soit de tatouages, soit de détails vestimentaires, mais on ne sait pas trop faire la part des choses, évidemment, c'est pas évident, sur une statuette en ivoire de mammouth ou en terre cuite. Et donc en fait, ce sont les sépultures. Donc les quelques défunts. Les quelques squelettes, les quelques défunts que l'on a retrouvés inhumés dans les sépultures, souvent il n'y a aucun indice, mais en Russie, et notamment à Chongir, on a retrouvé des défunts avec les parures de coquilles, de coquillages, d'éléments en os posés sur le corps, et la façon dont ils étaient déposés nous a donné des indices de vêtements. Et c'est un peu la libre interprétation de ce qu'il y a ici. Bon, il avait lui des manches et tout, mais il y en a un qui avait, et alors plus que ça, hein, là nous on était paresseux, hein, il en avait, je crois qu'il avait plus de 10 000 perles en os, tout en plastron, donc ça fait penser évidemment à une blouse, et en plus, manche pas manche, pantalon pas pantalon, il avait manifestement des indices de peau genre de loup blanc, renard polaire, qui était en bande ou auprès des poignets, donc on imagine très bien le vêtement en peau, avec de la décoration en plus, donc vous voyez déjà à l'époque, où il avait cette petite bande de fourrure de renard polaire, donc du blanc sur du beige ou du brun, cousu comme manche d'ornement. Et alors il avait quelques perles et autres au niveau des pieds, il était allongé bien sûr, et il avait des perles mais qui faisaient le tour de la jambe. Donc de là, imaginez que c'est cousu sur des jambes de pantalon, il n'y avait qu'un pas. Et donc dès l'époque, donc des aiguilles à chat, on peut déjà imaginer un vêtement tel qu'un vêtement inuit, justement esquimau ou autre, puisqu'ils ont des perles, donc ils avaient des blouses avec des manches, des pantalons avec deux jambes. Voilà. Donc quelque part, il y a 20 000 ans déjà, quelque chose d'assez sophistiqué. Et des distinctions, parce qu'évidemment, on connaît mal le statut de ces populations inhumées, et surtout celles qui ont des pleines décorations, pourquoi celles-là et pas les autres. On a la même chose, on a des perles sur la tête. Alors, soit ce sont des parures de diadèmes pour des femmes ou des choses comme ça.